Bonjour et bienvenue au Transversal, une émission dédiée aux artistes de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse. 40 minutes d'émission enregistrée et diffusée en deux volets, les mardis et mercredis matin à 10h35, en direct sur Radio JM 90.5 et ou en différé sur le site des Transversales www.lespetits-transversales.fr. Cette semaine, il est question de théâtre, il est question de l'histoire universelle de Marseille, de l'an 1000 à l'an 2000, une adaptation de l'essayiste marseillais Alcide Lumbria, portée à la scène par la compagnie Manifeste Rien, une compagnie que l'on connaît bien ici, au Transversal et à Radio JM, une pièce que l'on pourra voir au Théâtre de l'Œuvre, ce magnifique petit théâtre à l'italienne, à Marseille, 1 rue Mission de France, et ce sera les jeudis, 28, vendredi 29 et samedi 30 mars à 20h, donc trois soirées. Bonjour Jérémy Béchon.
Bonjour.
Et bienvenue au Transversal.
Merci.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors cette fois-ci, on va parler de l'histoire universelle de Marseille, de l'an 1000 à l'an 2000. Un opus, il faut le dire, de 792 pages, dont vous avez tiré, à vous deux, une pièce d'une heure. Donc que les auditeurs et les auditrices n'aient pas peur de cet opus volumineux. Alors ma première question, quelle est la genèse de cette pièce, Jérémy Béchon ?
La genèse, c'est que quand le livre sort en 2006, j'étais paradoxalement un peu méfiant parce que je connaissais assez bien les éditions Agon qui ont publié le livre, mais je me demandais quel est cet écrivain qui va... nous apprendre et m'apprendre l'histoire de ma ville que je pensais connaître. Et quand j'ai lu cet ouvrage-là, je me suis aperçu de la méconnaissance que j'avais de l'histoire de ma propre ville. Et j'ai travaillé pendant un long moment pour ingérer cette œuvre-là. Et avec Virginie Aymon, on a essayé de la partager de la manière la plus festive possible sur scène pour restituer l'engouement et l'enthousiasme que m'avait procuré la lecture de l'ouvrage d'Alcide Lumbria.
Mais vous ne connaissiez pas Alcide Lumbria alors ?
Non, mais
c'était
son tout premier livre. Donc il a depuis publié plusieurs ouvrages, mais c'était son premier.
Mais pourquoi lui ? Pourquoi ? Puisque vous ne connaissiez pas, vous ne saviez pas vraiment, on vous en a parlé, vous avait dit que c'était bien.
Parce que je connaissais le catalogue des éditions Agon.
Avec lequel vous travaillez toujours.
Voilà, on avait adapté une histoire populaire des États-Unis de Howard Dean. On travaillait donc sur ces histoires des luttes sociales, sur l'histoire de l'immigration. Et donc ce livre avec ce titre qui m'interrogeait, l'histoire universelle de Marseille. Voilà, et très très vite l'évidence de vouloir partager cette œuvre-là nous est apparue, notamment par le fait qu'il y a beaucoup de... Ce qui m'a aidé à rentrer dans l'ouvrage, c'est qu'il y a beaucoup de poèmes occitans, beaucoup de chansons provençales qui rythment comme ça l'ouvrage, et ça me permettait, quand j'étais perdu sur une certaine période historique, de pouvoir passer plusieurs pages et me raccrocher à une chanson, et comme avec l'univers des troubadours. Et comme la poésie est pour nous constitutive du théâtre, puisque le théâtre est une poésie orale, ça nous a permis ça a été une des entrées dans l'adaptation du livre.
Donc il vous a fallu quand même quelques années pour vous adapter, puisque c'est en 2006. Mmh. Et en 2009, vous créez votre premier spectacle avec... c'est bien ça ?
Oui, l'histoire universelle de Marseille, on s'y est pris à trois fois. Au début, c'était une lecture spectacle de larges extraits. Puis ensuite, à la demande de l'association Approche Culture et Territoire, en 2013, lors de la capitale culturelle européenne, on a voulu faire entendre une autre histoire de notre ville. Et on a fait un nouveau montage qui l'a restitué l'ensemble du livre, ou en tout cas qui essayait de restituer véritablement l'ensemble. Et puis ensuite, on est passé à un langage plateau avec davantage de corps, davantage d'espace, des prises de personnages, un jeu de création lumière.
Alors avant de poursuivre, j'aimerais qu'on écoute un extrait sonore. C'est Léo Ferré qui parle de Marseille.
Oh Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte où partait l'Indochine, en se prenant pour toi dans l'horizon. délavée te pleure avec du sang. Et puis l'âme marine, ô Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots qui dans la rue se prenaient par la taille et qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens que la tristesse empaille. Ô Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte. Ô Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne, et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Ô Marseille, la vie.
C'est presque un péché d'arrêter cette chanson, mais on la connaît. Peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, il y a une question que je voudrais vous poser, Jérémy Béchon. Cette fois encore, c'est la comédienne Virginie Hémon, votre complice à la ville comme à la scène, qui sera seule sur scène, sur la scène du Théâtre de l'Œuvre. Comment avez-vous conçu ce spectacle et de quelle façon travaillez-vous ensemble? Parce qu'elle travaille également sur l'adaptation des textes. Vous êtes ensemble pour ça?
Oui, moi j'ai fait un premier montage du livre, une première adaptation. Et puis ensuite, on passe à une écriture, ce qu'on appelle dans notre jargon une écriture plateau. C'est-à-dire que la comédienne joue le texte, même si elle ne le connaît pas encore par cœur. C'est d'ailleurs la phase d'apprentissage du texte. Et puis très vite, on s'aperçoit des répétitions, parce que l'écrit est paradoxalement beaucoup plus lent que l'oral. Et il y a énormément de choses qui sont redites sans cesse et qui peuvent passer par le langage du corps, qui peuvent passer par le sous-texte. Et donc, on trouve au fur et à mesure un rythme de la théâtralité qui permet, avec les outils du burlesque, avec les outils de la poésie, du langage corporel, encore une fois, de ce qui est dit entre les lignes, de la prise de plusieurs personnages, puisque Virginie Hémon interprète à partir des archives, mais elle interprète aussi bien les héros méconnus de l'histoire de la ville de Marseille qui ont résisté aux différents rois de France. Et l'adaptation se fait encore une fois dans la théâtralité même, au plateau, pour chercher ce qui nous amuse le plus et être le plus fidèle possible à la première émotion qu'on a eue à partager ce livre-là. Et il faut énormément enlever des choses qui sont dans le texte pour pouvoir les restituer par le jeu, par le dialogue, par l'imaginaire du spectateur qui, sur un plateau nu, arrive à être transporté sur une fresque de différentes époques, donc qui va de l'an 1000 à aujourd'hui.
On va y revenir. Quelques mots sur vous avant de poursuivre. Vous êtes Jérémy Béchon, vous êtes auteur et metteur en scène. Avec Virginie Hémon, vous êtes les fondateurs de la compagnie Manifeste Rien. Dans votre travail, vous choisissez d'adapter et de mettre en scène les œuvres issues des sciences humaines. Il y a eu entre autres Le massacre des Italiens de Gérard Noiriel, La domination masculine Pierre Bourdieu et Tassadit Yassine, Les trois exils d'Algérie, une histoire judéo-berbère d'après Benjamin Stora. Et d'autres encore, la liste n'est pas exhaustive. Cette fois-ci, c'est l'histoire universelle de Marseille, d'après Alessi Dell'Umbria. Qu'est-ce que nous dit ce texte, Jérémy Béchon?
De prime abord, faut peut-être pour l'histoire universelle de Marseille. Pourquoi universelle? Parce que c'est l'histoire de l'émancipation et des luttes urbaines. Et que ça part de la République de Marseille, de l'an 1000, donc qui était une république religieuse, quant à sa forme, mais politique quant à ses buts. Et cette République de Marseille a été fondée par le corps des métiers, le corps des 100 chefs de métiers. Donc il y avait des avocats, des gens de la mer. Il faut imaginer ces gens-là autour d'une table en train de rédiger les statuts de la ville. Et ces statuts-là de la ville, pour une république indépendante, vont se retrouver tout au long de l'histoire jusqu'en 1789. Donc c'est universel parce que c'est comment trouver une société plus égalitaire que ce que connaissait le système féodal français, par exemple, et universel parce qu'il s'agit de voir le monde du point de vue bien particulier de la ville de Marseille. Et que de ce point de vue-là, l'histoire nationale prend un tout autre sens que quand elle est vue du côté centralisateur et du côté de Paris, telle qu'elle nous est racontée dans les livres d'histoire, par exemple. Là, c'est un peu l'envers des livres d'histoire, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est l'histoire d'une ville qui a été vaincue, puisque Marseille a perdu, hein, Marseille est devenue française, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y est resté de cette culture occitane? Qu'est-ce qu'il y est resté de ce métissage? Qu'est-ce qu'il y est resté des échanges avec le monde musulman, qui datait dès le Moyen-Âge, des juifs qui étaient tolérés au sein de la ville, alors que sous la domination de Charles d'Anjou, par exemple, la première chose que va faire la France, c'est expulser les juifs de la ville de Marseille. Donc c'est revenir à la genèse de cette ville-là pour mieux la comprendre aujourd'hui.
Comprendre le passé, revenir au passé pour comprendre le présent.
Oui, et du coup ça permet, moi je sais qu'en tant que Marseillais, j'ai compris énormément de choses sur moi-même. C'est-à-dire qu'on grandit avec une ville qui est stigmatisée, et finalement on colporte ce stigmate-là de manière inconsciente. Et c'est vrai que quand j'étais petit, dès que je sortais de la ville de Marseille et je disais que j'étais de là-bas, c'était très mal vu. Enfin, je me souviens, par rapport aux autres villes, c'était quelque chose qui était extrêmement malfamé, qui sentait mauvais, qui était dangereux. Donc on est quelque part imbibé de cette identité-là.
On s'en débarrasse après.
On s'en débarrasse, ou en tout cas, on apprend à la comprendre et à la déconstruire, et même à en faire une arme. Une arme au sens de pouvoir se défendre et de dire que oui, c'est une autre culture, c'est une culture méditerranéenne qui a sa propre richesse, qui a ses propres codes et qui a sa réelle capacité de partage.
Alors, je vais lire un petit extrait, puis on va écouter également un extrait que vous avez apporté. La comédienne interprète avec humour et panache les protagonistes des différentes époques, Henri IV, Louis XIV, Robespierre, mais aussi les troubadours, les poissonnières, les prisonniers. Une adaptation qui est faite de trahison, de poésie et d'émeutes. 1000 ans d'histoire pour une comédienne sur un plateau nu, tel est le défi. Et nous allons écouter tout de suite un extrait que vous avez apporté avec vous, Jérémy Béchon. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Alors l'extrait qu'on va entendre, c'est un extrait qui est sur scène, et ça se passe à la fin du XVe siècle. Les représentants des différentes communautés provençales décident de se réunir pour mettre en avant l'identité politique du pays face au roi.
On écoute.
Nous, État de Provence, en cette année 1486, acceptons de voter un nouveau traité. Ce nouveau traité stipule. Lui qui a la couronne, là, c'est. Ouais, sur le cheval blanc, là, c'est. Ah, c'est le roi! Je me disais aussi ce qui se guignole, là. Non, 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 ça va, je me dis. Ce nouveau traité stipule que tout roi de France est tenu de s'arrêter avant de faire son entrée afin d'y jurer le respect des franchises et libertés citadines. Je me régale. Arrête, tu es blanc comme le cheval. De plus, aucun cantonnement des troupes françaises ne pourra avoir lieu dans la ville.
Jérémy Béchon, vous avez tout de suite su, lorsque vous avez lu ce texte, que vous alliez aller jusqu'au bout et à l'adaptation d'un ouvrage de 790 pages quand même, pour faire une pièce d'une heure. Mmh. Vous avez su tout de suite, c'était une évidence pour vous ?
Non, la vérité, il n'y a jamais d'évidence. Après, il y a le désir de faire une pièce de théâtre. Et il faut savoir qu'au départ, la pièce faisait près de 2h30, 3h. Mais encore une fois, ensuite, les pièces de théâtre deviennent autonomes, un peu comme des êtres vivants, et elles ont leur propre langage, leur propre rythme. Et il s'agit, une fois qu'on a incorporé ce qu'on voulait raconter à travers cette histoire-là, de suivre le rythme le plus naturel pour la comédienne. Là, on entend l'interaction avec le public. Moi, quand j'ai répété avec Virginie Aymon, c'était la plupart du temps, c'était moi qui riais. Quand elle jouait, elle s'amusait aussi. Et on espère toujours qu'ensuite, avec la rencontre du public, le public nous suive là où nous-mêmes, on a pris plaisir au plateau.
Mais en général, ça se passe comme ça, non ?
Et nos pièces font toute une heure, tournent tous autour d'une heure de spectacle, mais c'est pas un rythme qui est qui est choisi à l'avance. Il se trouve que à chaque fois qu'on a travaillé, au plus on travaille de manière ardue au plateau, au plus les choses se rétrécissent et au plus on arrive à dire des choses, encore une fois, par le langage corporel, par le sous-texte, et d'avancer, sachant que le plus important, c'est pas que les gens retiennent toutes les dates, parce que c'est impossible, on n'est pas dans un livre d'histoire, mais arrive à comprendre la continuité d'une histoire de la ville de Marseille, donc d'une lutte, encore une fois, d'une ville contre un état centralisateur qui est celui de la France, mais aussi d'une lutte au sein de la ville elle-même, puisque d'une lutte des classes au sein de l'enceinte même des anciennes murailles de la ville. Chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, les conflits qu'il peut y avoir avec la manière dont Marseille peut être vue, même si Marseille est passée à la mode, et puis les luttes sociales qui existent encore au sein même d'une ville, bien évidemment.
Et particulièrement à Marseille.
Particulièrement à Marseille, qui est une ville populaire, qui est une ville de l'histoire de l'immigration. Mais c'est extrêmement intéressant, parce que Marseille est une ville à la fois coloniale et à la fois une ville colonisée. Et Marseille existait avant la France, donc le point de vue est vraiment particulier à cet endroit-là. Et puis, il y a aussi le fait que quand même, le grand atout des Marseillais, c'est la tchatche, c'est la faconde.
C'est clair.
Alessi dit que c'est le plaisir des pauvres, parler. C'est aussi le goût de l'éclat, de la sueur, du sang, mais de la représentation du sang, pas du sang lui-même, bien sûr. Le fait de vouloir se réunir, qui est aussi important. Là, par exemple, peu après l'époque où on a entendu dont on a entendu l'extrait, il y avait de grands des rassemblements religieux qui étaient interdits par le pouvoir français, et pourtant les processions interminables qui se faisaient dans la ville, puisque les Marseillais ont de tout temps eu besoin de se rassembler. Et par exemple le stade Vélodrome, l'OM, c'est pas tellement que l'équipe soit tout le temps au top,
sait,
mais par contre il y a ce besoin de rassemblement là qui est extrêmement fort dans notre ville, et on le retrouve à tous les niveaux, que ce soit à travers la religion il y a des siècles, ou soit aujourd'hui à partir du foot ou de l'identité du rap. Il y a ce besoin encore de communauté très fort, avec cette sensation que nous on retrouve dans les ateliers, dans les représentations scolaires qu'on fait, d'être Marseillais avant d'être Français. Ce qui est quelque chose qui peut sembler être choquant, mais qui est une réalité que partagent beaucoup de Marseillais.
C'est ce qu'on entend tout le temps. Je suis Marseillais.
Voilà, et ça ne se dit pas forcément, parce que ça peut être choquant, mais en fait, les gens qui sont de cette ville ont cette sensation-là. Et cette sensation, nous, avec Virginie Mon, on l'a découvert à travers l'histoire de la ville, puisque la ville existait bien avant la constitution de l'État français, et qu'elle lui a résisté pendant mille ans d'histoire.
On écoute un deuxième extrait ?
Alors le deuxième extrait, c'est à la fin du XVIIe siècle, avec la venue de Louis XIV.
On écoute.
Alors la Porte Réale, vous l'avez deviné, hein, c'est l'actuelle Porte d'Aix, d'accord ? Là où les rois étaient tenus de s'arrêter pour y jurer le respect. Elle est abattue. Dans le même temps, on fait construire la citadelle Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean avec des canons tout neufs braqués sur la ville. Mais en cette fin du XVIIe siècle, le calendrier festif des Marseillais est assez chargé. 32 fêtes chômées. Après, avec les dimanches et les fêtes de corporation, ça fait ni plus ni moins un jour sur quatre où l'on ne travaille pas. Et alors, qui n'est pas feignant, qui n'est pas gourmand, que la foudre l'emporte.
Jérémy Béchon, vous voulez rajouter quelque chose à cet extrait ?
Ben, il me semble assez significatif de voir comment, malgré des canons braqués sur la ville réagit encore à travers la fête, à travers le rassemblement, à travers ces fêtes chômées et qui échappent au pouvoir en place. Mais malheureusement, la fête ne va pas durer, puisque les autorités ne vont pas rester sans réagir à cette festivité de la ville de Marseille. Les directives vont être assez féroces sous Louis XIV. Il va y avoir des interdictions aux cabaretiers de laisser leur boutique ouverte le soir après 9h. Interdiction de faire l'aumône sous livre de 5 livres d'amende. Sanctions pénales contre les habitants qui donnent retraite aux mendiants étrangers par la confiscation de leurs meubles. Donc des mesures de Louis XIV qui vont être extrêmement répressives. Voilà. Et ça me semble intéressant puisqu'on entend rarement parler du roi Soleil sous cet aspect-là à l'école. Et absolument, quand on entend ces mesures extrêmement violentes envers le peuple et envers le petit peuple, on comprend mieux la résistance de la ville de Marseille également. Donc encore une fois, c'est cet envers des livres d'histoire qui nous est présenté. Et c'est extrêmement important d'arriver à avoir plusieurs points de vue. Celui de l'histoire officielle, celui de l'école, absolument, mais aussi celui des chercheurs, des historiens, des essayistes qui voient l'histoire à travers finalement leur propre histoire. Et ce prisme-là est extrêmement important, tout comme la connaissance de l'histoire plus officielle également.
Très bien. Alors notre conversation pour ce matin se termine, mais on se retrouve demain pour la suite.
Avec plaisir.
On se retrouve même lieu, même endroit, à 9h30. Non, à 10h35, et je propose à Amy de nous mettre la fin de la chanson de Léo Ferré.
Ça marche.
Merci et à demain.
Merci, à demain.
On dirait que le vent a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Oh Marseille, la vie a porté sur ton dos tout ce nord qui proteste en moquant la musique qui monte de ta gorge, accrochée à tes mots, les mêmes que là-haut dans les steppes plastiques. Oh Marseille, on dirait que flottent des drapeaux.